Libre à Dieu. Un regard courbe comme un sabre, sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org. La radio qui aiguise les lames, et qui étête les corps.
Alors venons-en aux artistes présents, oui, qui sont d'origine donc argentine. Voudrais-tu nous les présenter?
Bueno, yo soy Loreto Garín, mi compañero Federico, que está sentado acá al lado mío. Nosotros somos parte de un colectivo que se llama Etcétera. Es un colectivo que surgió en 1997 en Buenos Aires. Fue conformado por más de 20 personas en el paso del tiempo y ahora quienes quedamos sobrevivientes somos nosotros dos.
Muchas gracias.
Alors c'est donc Loreto Garín qui vous parle, hein? Moi je fais la traduction, il y a aussi parmi nous Federico qui va parler certainement un peu plus loin. Et ils font partie d'un collectif, ils ont été cofondateurs d'un collectif d'artistes qui a été fondé en Argentine en 1997. Et maintenant, au fil des années, quand même 20 ans, c'est déjà assez étonnant. Ça, c'est moi qui ajoute
que
c'est étonnant qu'un collectif dure quand même plus de 20 ans. Et c'est maintenant eux les représentants. Ils sont ici à Genève pour un séjour, une résidence d'artistes chez Utopian. Ça, c'est moi qui ai ajouté, mais
l'aurais pris. Mais c'était la question qui allait venir, c'était qu'est-ce que vous faites ici?
Bueno,
qu'est-ce qu'ils font ici?
¿Qué hacemos acá? Bueno, nuestro colectivo tiene una historia bien larga, porque surgimos exactamente alrededor de la lucha de los derechos humanos en Argentina y tratando de llevar el arte a las calles, a los espacios de lucha, y tratando de llevar los espacios de lucha a los espacios que están consagrados para el arte.
Alors, donc, c'est leur collectif s'organise en même temps que commence ou s'intensifie plutôt, disons, la lutte pour les droits humains en Argentine, donc où il y a des... Et ils travaillent pour emmener la lutte dans l'art, l'art dans la rue, et surtout aussi pour l'art et la lutte dans les endroits consacrés d'où ils devraient, enfin, où ils ne devraient pas pénétrer, disons.
Bueno, con el tiempo han pasado muchas cosas.
Beaucoup de choses sont arrivées.
Nuestro colectivo se fue consagrando un poco más, viajamos, nos empezó a ir muy bien gracias a la crisis económica del 2001.
Donc avec le temps, les choses se sont compliquées, mais le collectif a très bien marché, surtout à partir de la crise économique en 2001.
Puesto que estábamos produciendo arte en las calles, arte en la crisis, entonces, bueno, estábamos produciendo mucho.
Parce qu'à cette époque-là, ils produisaient déjà de l'art de crise et de l'art de rue.
Y bueno, en 2005, cuando fue recuperado el país de aquella crisis tan tremenda del 2001, nosotros estábamos un poco tristes porque a nosotros nos gusta mucho el conflicto.
Ils étaient presque un peu tristes en 2005 quand le pays a commencé à récupérer de cette crise parce que justement ils aiment bien le conflit. Donc la situation de crise était favorable à leur action artistique.
Podríamos decir que fue un desexilio de nuestro exilio, el aquel retorno a la normalidad.
C'était presque un deuxième exil, ce retour à la normalité, un des exils de l'exil.
Juste pour préciser, le retour à la normalité, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est un retour à une forme de confort ou c'est une crise qui quand même se poursuit, qui devient la normalité?
Bueno, la crisis económica y de representación del 2001 lo que trajo no solamente fue una crisis en términos económicos, que fue dramática, yo lo hago en términos humorísticos, pero fue dramática, sino que trajo una crisis en el sistema de representación política.
Donc la crise en 2001, c'était une crise économique qui a eu effectivement beaucoup d'effets, mais ça a été aussi une crise de représentation, donc ça a été dramatique d'un point de vue économique, mais ça aussi produit une crise dans tous les systèmes de représentation politique.
Una crisis de representación que nosotros, como etcétera, celebramos.
Mais cette crise de le groupe etcétera a célébré cette crise de représentation.
Junto a miles de personas que creíamos que era necesaria esa crisis de representación para poder transformar el sistema económico.
et avec de même que des milliers de personnes, des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui pensaient qu'il fallait une crise de la représentation pour pouvoir transformer le système économique.
Se produjeron procesos de democracia directa, asambleas, economías muy diferentes, nuevos tipos de economía directa. Y eso para nosotros fue muy importante. Entonces el retorno a la normalidad podría ser no solamente el retorno a la calma económica, a la recuperación económica, sino también el retorno a la creencia en el, al sistema democrático y de representación del cual pensamos que habíamos producido una fuga.
Bon, je vais paraphraser là, parce que je crois que c'était, mais fondamentalement, l'idée c'est que pendant les années de crise de ce système économique et de représentation, il y a eu des expériences de démocratie directe, d'organisation de quartiers, des modes de, disons, des liens et des rapports économiques innovateurs qui sont disparus finalement petit à petit à mesure que le système de représentation politique officielle s'est rétabli. Et puis que donc ce retour à la normalité a aussi présupposé un retour à une croyance dans un système politique qui et un système économique qui finalement avec lequel ils ne sont pas d'accord et puis enfin qui était celui qui avait emmené la crise en premier.
Bueno, con ese retorno al sistema financiero también ocurrieron cosas muy positivas, como a poder se pudo enjuiciar a los militares, responsables de la dictadura militar. Hubo transformaciones muy positivas, pero bueno, 2005 para nosotros nos estaba yendo muy bien, viajando mucho a Europa como colectivo. El país estaba en una calma muy tranquilo, como vendría a ser una calma suiza, le podríamos llamar. Y lo que ocurrió fue que, bueno, para salvar un poco el cadáver de nuestro colectivo, vino de visita el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush.
¿A ese momento es déjà Macri que es presidente de Argentina o pas encore?
En 2005, ¿no?
No, fue Néstor Kirchner. Néstor
Kirchner.
Donc il y a eu, en 2005, c'est une année où finalement, retour à la normalité financière qui a permis quand même de, disons justement, cet rétablissement économique a quand même permis le procès aux militaires. Enfin, il y a eu quand même quelques avancées dans certains camps, mais bon, eux, ils étaient en voyage en Europe, ils étaient tranquilles, la sérénité régnait. Jusqu'à la visite du président nord-américain Bush en Argentine. Et là...
Bueno, en aquel momento fue un paraíso para nosotros.
Et ça, c'était le paradis pour le groupe, etc.
Porque venía George Bush, teníamos que recibirlo, welcome president, y venían también muchos otros presidentes, venía... Chávez, que ahora está muerto, de Venezuela, venía el rey de España, venían muchos presidentes de Latinoamérica que ahora ya no son más presidentes, como Lula, Kirchner, todos juntos, en la cumbre de presidentes de América Latina para el Tratado de Libre Comercio de las Américas.
Entonces, 2005, sommet des présidents latino-américains en vue du traité de libre commerce des Amériques.
Juste une petite... Pardon, excusez-moi.
Et puis là, il y a eu pas seulement Bush, mais il y a eu même le roi d'Espagne, beaucoup de présidents latino-américains qui ne sont plus présidents maintenant, évidemment. Et le groupe, etc., le collectif, etc., a voulu leur donner la bienvenue.
Juste petite parenthèse là-dedans, comment à ce moment-là sont perçus les pays de l'Alba, les pays bolivariens? Parce que tu parles de la présence de Chavez, est-ce que les gens de Cuba étaient dans les parages ou ça, c'est pas possible? Enfin, depuis l'Argentine, depuis votre position, comment on observe ça? On se dit, il va y avoir la guerre là, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, comment on voit ça? Parce que c'est quand même des présidents qui sont entre Bush et puis Chávez, je veux dire, c'est les antipodes, quoi.
Bueno, cómo se perciben justamente todas, por un lado los presidentes bolivarianos, pero también Chávez en particular, si se resienten como un peligro, como...
¿Ahora o en aquel momento?
En aquel momento.
Y en aquel momento fue un momento muy importante, porque ese encuentro en noviembre del 2005, fue un encuentro para firmar el Tratado de Libre Comercio de las Américas. Por eso venía Bush, el presidente canadiense, y venía a España, que no entendemos por qué venía a América, pero venía a España. Y Chávez, Kirchner, Lula y Evo Morales estaban ahí para exactamente intentar que ese Tratado de Libre Comercio no se generara. Es a partir de ese encuentro que se funda el ALBA.
Ah, j'ai compris.
Porque se produce un fracaso muy grande, sí. De la firma del Tratado de Libre Comercio y desaparece el ALCA.
Donc, c'était un sommet pour signer un traité de libre commerce. Et ici, le collectif signale que c'était quand même étonnant que à ce sommet soit présent, par exemple, le roi d'Espagne, qui n'a rien à voir avec normalement,
oui.
Non, mais bon. Et que c'était intéressant parce qu'il y a un groupe quand même de présidents de l'époque qui s'oppose en fait à l'établissement d'un traité de libre-commerce. Et c'est là que échoue, disons, la participation, si vous voulez, d'Evo Morales, de Bolivie, Hugo Chavez, de Kirchner, qui est-ce ?
Lula,
de Brésil.
Et l'Uruguay ?
Ils étaient contre Uruguay. Ils étaient contre l'établissement qu'il y a du libre commerce. Alors là, ça a effectivement changé les plans, les projets. Ça frustrait les projets de libre commerce.
Et comme toute cumbre, esa cumbre tuvo una contracumbre. En donde también estuvo Chávez, estuvo Manu Chao, Emir Kusturica, las madres de Plaza de Mayo, y etcétera. Y como etcétera tenía que preparar una acción de calle muy fuerte, y nosotros sabíamos que en ese encuentro del ALCA se iba a discutir las leyes antiterroristas, que para nosotros eran un absurdo en Latinoamérica.
Donc, comme il se doit à tout sommet, il y a eu un contre-sommet où il y a eu aussi Chavez, mais il y avait aussi Manu Chao, Kusturica, il y avait le collectif, évidemment, etc. Et, ahí me perdí.
Y nuestra acción iba a girar en torno al tratado, a la ley, al tratamiento de la ley antiterrorista para todos los países del Cono Sur, que se trató, se discutió en ese encuentro de presidentes.
Donc, etcétera, le collectif, etcétera, a travaillé ou a fait illusion sur le projet de loi sur le terrorisme, enfin antiterroriste, qui était discuté au sommet officiel.
Y que para nosotros era un absurdo. ¿Qué tiene que ver el terrorismo en Argentina?
Et pour eux, c'était ridicule, enfin absurde plutôt, puisque en Argentine, il n'y a pas le sujet du terrorisme. C'est un régime, si vous voulez, qui n'a aucune réalité.
Pasaban cosas tan absurdas como que un mes antes que llegase el presidente George Bush, anunciaban en la televisión que habían encontrado una posible bomba en un tren de Buenos Aires, porque en un locker habían hallado una kefia palestina con dátiles.
Donc l'absurde prenait des formes surprenantes, comme par exemple un mois avant l'arrivée du président Bush en Argentine, tout d'un coup les nouvelles apparaissent, on annonce qu'il y a eu une tentative d'attaque terroriste dans un train, parce qu'on avait trouvé dans un des casiers de la gare un foulard palestinien avec un paquet de dates dedans.
Arme bien connue.
Oui, entonces, bien connue.
Descubrimos que el fenómeno del terrorismo estaba asociado con la imagen de Medio Oriente, y para ello produjimos una acción performativa en la calle, en donde nosotros simulábamos ese estereotipo que hay en las fake news, en las noticias de la CNN y todo eso que llega a nuestros países, vestidos de la misma manera del estereotipo que hay de un terrorista.
Donc c'était évident pour eux que le terrorisme était associé donc à l'Orient, à l'extrême Orient, et à toute une série de stéréotypes. Et donc ils ont fait une action dans la rue où ils étaient habillés des stéréotypes. Pour mettre en évidence ces stéréotypes.
Fabricamos Kalashnikov de cartón, rockets, granadas, teléfonos celulares, todo de cartón y fotocopia.
Ils avaient donc des kalachnikovs en carton, des bombes en carton, toute une série de matériel, soit photocopié, soit en carton, matériel terroriste.
Y obviamente empezamos a producir un teatro que era un teatro del terrorismo.
Sí.
Ocurre que un compañero, dos noches antes de partir a Mar del Plata, donde se producía este encuentro de presidentes, viene con un manifiesto muy bello escrito que se llamaba Teatro y Terrorismo.
Donc, ils ont commencé à faire du théâtre du terrorisme et deux jours avant le sommet à Mar del Plata où allaient se retrouver
au bord
de l'océan tous les présidents, un de leurs collègues est arrivé avec un manifeste sur Théâtre du terrorisme.
Él puso su llave de USB en el computer, abrió
la clé USB Word, dans l'ordinateur,
el Word, programa Word, y se abrió el título que decía Teatro y Errorismo.
Ah.
Without T,
sí,
non
sí.
T, ne pas T.
Donc, il a mis sa clé USB dans l'ordinateur, il a ouvert son document Word et le titre est sorti Théâtre et Errorisme au lieu de terrorisme.
Desesperado, se dio cuenta que la tecla T de su computer tenía un error.
Donc, la touche T ne marchait pas dans son ordinateur.
El programa Word nos dio dos opciones para corregir.
Le programme Word a proposé deux options pour corriger.
Terrorisme et érotisme.
Okay.
Ils avaient le choix entre terrorisme et érotisme.
Et fue así que surgió la Internacional Errorista.
Ah.
Et c'est comme ça que surgit l'Internacional Errorista.
Escribimos un manifiesto. Teníamos muchas personas internacionales de Francia, Italia, Argentina, Brasil, siendo parte de esa acción, por lo cual fue una internacional. Y desde ahí generamos diversas acciones, dentro de las cuales han pasado por distintas partes del mundo y el movimiento crece y crece y crece porque es un movimiento filosófico.
Donc de là est surgi le manifeste Erroriste qui a été signé par beaucoup d'artistes et de gens puisque à ces rencontres sont venus des gens de un peu partout dans le monde et de là est né donc cet international Erroriste qui est une philosophie partagée à travers le globe.
Absolument. Dont on a entendu parler également ici à Genève, en ce qui me concerne, en tout cas concernant l'international Erroriste. C'est très drôle. Alors c'est maintenant Federico qui prend la parole. Bienvenue à toi.
Merci.
Voudrais-tu en quelques mots quand même te présenter?
Que te presentes en pocas palabras.
Bueno, mi nombre es Federico Zuckerfeld, soy de Buenos Aires.
Sí.
Y en este momento estoy errando aquí en Ginebra, Suiza.
Donc c'est Federico Zucker de Buenos Aires et en ce moment il erre, on ne sait pas si c'est qu'il se promène ou il fait des erreurs à Genève. Les deux en même temps certainement.
Très bien, très bien. Alors pour en revenir à cette fonction de l'art et à vos actions là-bas, peut-on dire que c'est à ce moment-là, quand cette loi contre le terrorisme qui est naissante, où quelque chose change? Est-ce que c'est un moment charnière? Ce que je préfigure par là, c'est à quoi va servir cette loi ensuite, et notamment de militariser des zones, notamment les zones autochtones, et de cette manière-là les criminaliser pour pouvoir éventuellement les mettre en prison, en tout cas les réprimer.
O sea, te está pidiendo que comentes la ley contra el terrorismo, la ley antiterrorista que criminaliza, que permite justamente a través de la criminalización, la militarización.
Muy bien. Bueno. Nosotros en Argentina y en toda Latinoamérica tuvimos terrorismo de Estado.
Alors nous en Argentine et partout en Amérique latine nous avons eu du terrorisme, mais c'était du terrorisme d'État.
C'est bien de le préciser.
Bueno, conociendo un poco de la historia, nosotros pudimos darnos cuenta de que la memoria de todo ese proceso que vivimos durante los años 70 en todo el continente, que fue también orquestada desde el Pentágono, desde Washington, a partir de lo que se llamó el Plan Cóndor.
Donc, me olvidé del principio. Perdón.
No hay problema. Nosotros tenemos un conocimiento histórico y una memoria, por suerte, sobre los orígenes de este terrorismo de Estado.
Voilà, nous avons une mémoire historique, une connaissance des origines de ce terrorisme d'État.
Que fue originado también y orquestado desde el Pentágono, desde Washington, la llamada Escuela de las Américas. Uh-huh. Y
principalmente. Que ha sido orquestado y generado por el Pentágono, la Escuela de las Américas.
Para contrarrestar un proceso revolucionario.
Pour répondre à un processus révolutionnaire qui avait lieu à ce moment-là.
En grande partie inspiré desde la Révolution cubana.
Qui s'inspirait en grande partie de la Révolution cubaine.
À partir de ce processus, se installaron ciertas políticas económicas que continúan hasta el presente.
À partir de ce processus, s'installèrent certaines politiques économiques qui continuent jusqu'à maintenant. Et j'ouvre une parenthèse pour dire même. On considère que c'est que cette dictature, enfin que toutes ces dictatures étaient en fait non pas des périodes de transition, mais c'était les périodes pendant lesquelles on a implémenté les bases du néolibéralisme qui a suivi.
Absolument, ouais, claro. Bueno,
perfecto.
Perfecto, sí.
Bueno. Pero eso sucedió en los años 70.
Eso sucedió pendant les années 70.
Alors, nosotros estamos hablando del año 2005, sí, cuando fue el tratado de la ley antiterrorista.
On parle maintenant, mais ça c'était aux années 70, mais là il veut parler des années 2005.
Mais juste une petite parenthèse, parce que tu as cité le mot et c'est important que les gens l'entendent bien. On peut dire que donc une des bases se trouve au moment du plan Condor. Dire quelques mots du plan Condor, qui est cette réunion effectivement, qui effectivement implémente à ce moment-là le système libéral piloté par les États-Unis d'une certaine manière, mais qui implique les dictatures de plusieurs pays d'Amérique latine.
Que digas algo más sobre el plan Condor.
Sí. Bueno, el plan Condor es un plan donde estuvo involucrado Brasil, Bolivia, Perú, Argentina, Chile, hasta Colombia, digamos. Es un plan, pero sobre todo en el Cono Sur. El plan Condor.
Donc, ce qu'on appelle le plan Condor a impliqué l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, le Paraguay, le Pérou, jusqu'à la Colombie. Surtout le
Cono Sud.
Básicamente, es la coordinación de las dictaduras para poder secuestrar, torturar y desaparecer personas de estos países involucrados, al mismo tiempo de generar políticas económicas de expropiación de tierras, de apropiación de minas y recursos naturales y económicos.
Donc c'était une manière de synchroniser le kidnapping, le séquestre, la disparition,
oui.
Et la torture, mm-hmm. Donc des gens qui étaient, enfin des mouvements de gauche et révolutionnaires à travers le continent. Et aussi de s'approprier les ressources naturelles, d'exproprier des terres, donc d'accaparer les ressources nationales.
Eso fue un poco, digamos, la historia del plan Cóndor.
Ça, c'est l'histoire du plan Cóndor.
Algunos de los militares de los países latinoamericanos estudiaron en la escuela de París, en la escuela piloto de París, donde se entrenaron con los mismos métodos que se utilizaron en Argelia para poder implementar ese tipo de torturas y de secuestros y desapariciones.
Certains des militaires en Argentine, en tout cas, sont éduqués à l'école à Paris, là où on avait formé aussi les gens pour la guerre d'Algérie, donc, dans des méthodes de torture et de séquestration, etc.
Bueno, nosotros con nuestro colectivo artístico durante mucho tiempo estuvimos colaborando con organismos de derechos humanos. Trabajando primero con las madres de Plaza de Mayo y luego con los hijos de desaparecidos para, a través del arte, poder lograr denunciar a los genocidas y militares.
Donc le collectif etc. pendant longtemps a travaillé de très près avec des organisations de droits de l'homme, des droits humains disons plutôt, j'en parle, avec notamment les maires de Place de Mai et les différents collectifs des enfants de disparus. pour dénoncer justement le génocide en Argentine et ailleurs.
Peut-être juste rappeler que les mujeres de la Plaza de Mayo, ce sont donc ces femmes, mères ou compagnes ou proches de disparus, qui manifestaient constamment, quasiment, pour dénoncer et pour surtout faire survivre cette mémoire. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui.
Exactement. Sí. Bueno. Pero eso... Fueron los años de la postdictadura, sí, durante la, sí, democracia. Luego tuvimos el primer gobierno en Argentina de Raúl Alfonsín. Luego vino el presidente Menem con toda una política de neoliberalización, de privatización de todas las empresas públicas, uh-huh, la aerolínea, el agua, el gas, la electricidad. Todo pasó a manos privadas para completar el proceso que habían comenzado, uh-huh, en los años 70.
Donc leur travail avec les groupes dans la lutte des droits humains était donc a commencé avec le retour à la démocratie. C'était les années de retour à la démocratie qui ont été quand même suivies par le gouvernement de Menem, qui a tout privatisé, qui quelque part a fini, a peaufiné le processus qui avait commencé la dictature.
Bueno, dictature militaire, Videla, oui, général, voilà.
Juste pour... Voy a volver a la cumbre de las Américas del año 2005.
Sí. Non, pour retourner au sommet des Amériques de 2005.
Después de este raconto. Bueno, en el año 2001, las torres gemelas, sí, y el atentado en Nueva York. Uh-huh. A partir, ouais, de ese momento, comienza la política antiterrorista global. Uh-huh.
2001, hein, les tours, le World Trade Center à New York, et c'est à partir de là commence les politiques antiterroristes mondiales.
Pero nosotros en el sur del sur de América.
Nous au sud du sud de l'Amérique.
No tenemos Osama bin Laden.
Pero los Mapuches. Sí,
exactamente.
Il y a que les Mapuches là-bas qui sont en danger.
Donc on rigole. Hein.
Oui, oui, c'est une blague.
Por eso para nosotros era, tenía una cuota de absurdo imaginar de que podríamos venir a discutir en el sur del sur qué pasa con Al-Qaeda o...
C'est pour ça que c'était ridicule, absurde de discuter l'idée de qu'on discute au sud du sud les dangers de Al-Qaeda.
Pero luego, al interpretar, al leer cuál era la agenda del encuentro de la Cumbre de las Américas, ahí comprendimos que la ley antiterrorista estaba planificada no para Medio Oriente, no para los conflictos de las Twin Towers, sino para los movimientos de resistencia de América Latina.
Mais en regardant de plus près l'agenda derrière ces projets de loi antiterroristes, ils se sont rendus compte qu'elles ne s'adressaient pas vraiment au Moyen-Orient, qu'elles n'étaient pas vraiment liées au désastre des Twin Towers, mais qu'en fait, elles s'adressaient au mouvement de résistance latino-américain. Enfin.
Oui. La ley antiterrorista era la primera que se discutía de un paquete de medidas que venía desde Washington.
La loi antiterroriste était la première loi à être discutée dans un paquet de mesures qui venait de Washington.
Las otras son...
Les autres étaient...
La llamada ley de patente de semillas, impulsada principalmente por Monsanto.
La loi de...
Sur les graines, non?
Non. Patente,
les semences.
On dit patente,
ouais. Patente, oui, tout à fait.
La loi des patentes des semences, qui était, ouais, donc proposée surtout par Monsanto.
La ley de aseguración de financiera. Significa que cuando un país que tiene una deuda financiera no tiene el dinero para pagar, puede pagar con montañas, con agua, con sus, mm-hmm, recursos naturales y con la tierra.
Il y avait aussi une loi d'assurance financière qui stipulait qu'un pays endetté, qui ne puisse pas payer, donc rembourser la dette, pouvait la rembourser avec ses ressources naturelles.
Es paradójico porque todas estas medidas económicas fueron llevadas a discusión y a pesar de que el tratado de libre comercio de trading, el tratado no fue aprobado, estas leyes sí fueron aprobadas. y incluso en gobiernos llamados progresistas o populistas, depende de la punto de vista.
C'est paradoxal, et j'ajouterais moi très inquiétant, le fait que bien que dans ces sommets, le traité de libre-commerce n'ait pas été approuvé, toutes ces lois individuelles l'ont été, même par des gouvernements soi-disant progressistes.
Nosotros, con el movimiento errorista internacional, estuvimos luchando fuertemente, artísticamente, con nuestras armas poéticas, para resistir toda esta embestida del capital.
Donc, avec le collectif etc., ils ont lutté artistiquement et intensément contre cette agression, non, contre cette embestida, dame una palabra para embestida, contre
ataque.
Cette attaque du capital. Et ils continuent à le faire.
Et ils continuent à le faire. Alors justement, vous êtes maintenant à Genève, dont on sait que voilà, c'est une place forte du système tel qu'on le connaît et qui nous assiège. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ici à Genève?
¿Entendiste? ¿Qué piensan bueno, hacer desde bueno, Ginebra? O...
Bueno, estar en el corazón del capital.
Être au cœur du capital.
Es siempre muy excitante.
C'est toujours très excitant, très, très intéressant.
Comprender cómo los recursos naturales, las materias primas que vienen de África, que vienen de América, que vienen de Indonesia, que vienen de la India, llegan a Suiza, llegan al stock market de Ginebra, se convierten en commodities o productos de lujo, para luego volver a ser consumidos por la élite global.
Comprendre comment les matières premières qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique, qui viennent de différentes parties du monde arrivent en Suisse pour devenir ensuite des produits de luxe consommés et deviennent des commodités, non, de luxe consommés par les élites.
Bueno, un poco esa sería nuestra curiosidad.
C'est un peu leur curiosité dans cette résidence d'artiste.
Intentar comprenderlo
para
luego, utilizando métodos artísticos, poder hacerlo visible.
Comprendre ces processus et ensuite arriver à le rendre visible par des méthodes artistiques.
Ce dont on a bien besoin à Genève, je pense.
Oui.
Peut-on dire.
Hace algunos años, nosotros comenzamos a crear un proyecto que es una especie de museo imaginario.
Il y a quelques années, ils ont commencé un projet de musée imaginaire.
Para imaginar en el futuro cómo sería la narración del presente.
Pour imaginer comment on raconterait le présent dans le futur.
Cuando los recursos naturales se han agotado.
Quand il n'y aurait plus de ressources naturelles.
Quand le cambio climatique sea tan terrible que la propia humanidad no pueda subsistir.
Quand le changement climatique serait déjà si extrême que l'humanité pourrait à peine survivre.
Nuestro museo está inspirado en los centros de visitantes, en los visitor centers de las grandes corporaciones.
Leur musée s'inspire des centres pour les visiteurs des grandes corporations.
Nosotros hemos estado recorriendo algunas de las grandes empresas, como por ejemplo BASF,
oui, BASF,
en BASF, en Ludwigshafen, en Alemania.
Oui. Donc ils ont visité ces grandes entreprises comme BASF en Allemagne.
Y fue una gran inspiración para
ils
nuestro museo.
Une grande inspiration pour leur musée.
Primero conocer la historia de la compañía que fue la primera empresa que pudo comprar la patente de un color. El blue, el azul índigo, el que está en todos los jeans, toda la ropa.
D'abord connaître l'histoire de l'entreprise qui a pour la première fois pu patenter une couleur, la couleur indigo qu'il y a dans les jeans.
Y que luego se ubicó como una de las grandes empresas químicas que en su discurso para el gran público pareciera tener la solución para todo.
Et qui s'est ensuite positionnée, présentée comme est devenue une des industries chimiques qui se présente dans son discours comme ayant les solutions à tout.
A partir de nuestras visitas a estos pequeños museos, estos centros de visitantes en las empresas, imaginamos crear un museo sobre el extractivismo, sobre la extracción, para que de alguna manera poder contarle al gran público de una forma reversa lo que las empresas no están diciendo.
Donc à partir de ces visites dans les visiting centers de ces entreprises, ils ont eu l'idée de créer donc un musée de l'extraction pour raconter l'autre face de ce qui se passe, enfin du discours des grandes entreprises, justement.
On va peut-être faire la parenthèse BASF, c'est effectivement cette énorme transnationale pétrochimique qui est très présente en Suisse, à l'époque des vidéocassettes, même des VHS, et plein de produits comme ça. Précise, voudrais-tu peut-être en quelques mots dire ce que c'est que l'extractivisme, justement ? Parce qu'on a des exemples en Europe, mais on sent bien que le sens commun n'a pas encore bien saisi ce qui se cache derrière ce mot.
Que hables que si puedes explicar el extractivismo que en Europa se conoce, pero que el sentido común no pesca toda la dimensión de esa palabra.
Bueno, el extractivismo, la extracción, no es algo nuevo. Comenzó con las colonias.
La extracción ha comenzado avec les colonies.
Principalmente en los viajes de los colonos de distintos países europeos como Inglaterra, Holanda, Suiza paradójicamente parece que no tuviera colonias, pero en este comercio global uno empieza a ver en la historia y el tráfico de esclavos y de mercancías siempre hubo.
Donc ça a commencé avec avec les grands empires de... Je dirais même, là, c'est moi qui ouvre une parenthèse et qui dis ça a commencé avec Colomb, quand même. C'était le premier extractiviste. Il est venu avec une vision d'Amérique comme un butin. On pouvait piller sans tranquillement.
Sans condition.
Voilà. Et évidemment, c'est donc l'idée de ramener des espèces de matières de partout.
Pero hay una diferencia entre el extractivismo histórico del pasado y el neo-extractivismo, el nuevo extractivismo.
Mais il y a une différence entre l'extractivisme historique, non, des grands empires, non, des oui, colonial et le néo-extractivisme.
En el neo-extractivismo, en la etapa actual que estamos, la extracción no solo es de materia prima.
À l'étape actuelle, l'extractivisme n'est pas seulement ça concerne pas seulement la matière première.
También hay extractivismo mental. Extractivismo cognitivo.
Il y a aussi de l'extraction mentale et cognitive.
Es otro commodity.
Un autre commodity.
El neoextractivismo también se diversifica.
Le nouveau extractivisme se diversifie.
Por ejemplo, a través de la utilización de cultivos transgénicos.
Par exemple, les
cultures transgéniques.
Les cultures transgéniques.
El monocultivo.
Monoculture.
Se puede lograr con una misma dimensión de tierra producir muchísimo más porque son super resistentes. Son plantas super resistentes. También se puede hablar de la nueva mega minería, que no es la minería artesanal antigua, sino la minería a través de la utilización de cianuro. Al cielo abierto.
Voilà, donc on a par exemple pas seulement les monocultures, les techniques de culture intensive, mais il y a aussi la méga minerie, exploitation minière, où au lieu de travailler par des mines avec des dimensions humaines, on fait exploser des montagnes entières et on traite au cyanure.
Quizás por eso, en el contexto europeo, el extractivismo sea una práctica quizás desconocida. A pesar de que siempre hubo minería de carbón, siempre hubo extracción en los propios territorios, la mayor parte de lo que se importa viene de países subdesarrollados.
Donc en Europe, c'est peut-être pour cela qu'en Europe on comprend mal l'extractivisme, parce que même s'il y a des mines de charbon,
en Allemagne typiquement,
ils sont très attaqués, c'est quand même surtout des pays du entre guillemets tiers monde sous-développés que on disons, c'est de là que proviennent la plupart.
Oui, et c'est là que ça se voit. C'est là que ça se voit beaucoup.
Et c'est là que ça se voit.
Alors qu'ici, c'est tout à fait masqué. On a beau nous dire, voilà, vous avez un accès quasiment illimité à des matières premières, mais on n'en voit pas les défauts et on n'en voit pas justement les conséquences ici en Europe, en tout cas en Suisse. Aucune mine à ciel ouvert.
Que acá sobre todo, aunque nos digan que estamos extrayendo materias primas, no se ven, es algo que no se ve, porque no vemos las minas abiertas, es un poco como con la basura, te diría, no se ve la basura, no se ve el desperdicio.
Pero se ve el cambio climático.
Sí, oui.
Y el en Suiza, más o menos.
Los glaciares.
Les glaciers.
Ça commence à se voir, oui, ça commence.
Cambio climático.
Yo vi unos afiches en la
sí, rueda. Sí, sí.
Bueno, el extractivismo, el nuevo, este neo-extractivismo, también tiene, tiene otras industrias, que son la industria de la reparación. Significa que las grandes compañías, los holdings financieros, también tienen sus propias ONGs. Lo que se ha llamado comúnmente greenwashing.
Donc cette activité d'extractivisme a sa contrepartie qui s'appelle la disons des entreprises de réparation. Ce sont des ONG qui sont liées en fait qui font ce qu'on appelle du greenwashing, non, qui sont liées aux entreprises qui exploitent et puis qui viennent réparer ensuite les gros dégâts partiellement et puis qui font la bonne conscience, en fait.
Un travail de propagande, d'une certaine manière.
Et, pour último, la industria de las armas, del armamento.
L'industrie des armes.
Parce que le processus du néo-extractivisme, muchas veces utilisan prétextes ou excusas, comme par exemple sería el narcotráfico, ou las guerrillas, ou el terrorisme, para poder. Un territorio, par exemple, en Colombia. Bueno, hay minería, hay recursos naturales. Las compañías no pueden acceder porque es un territorio de otro país, no tiene jurisdicción internacional. Pero gracias a que en esa zona hay narcotráfico, se puede vender armas para que el ejército ingrese, desplace a los pobladores a otras zonas rurales y esa área quede libre para la explotación minera.
Alors, je vais traduire un peu librement. En gros, ce qu'il dit, c'est que, en effet, les conflits armés sont souvent liés au besoin de dégager, de libérer des terrains pour l'exploitation minière, que ce soit, par exemple, en Colombie. On utilise le prétexte, on crée même un conflit armé de guérilla, etc., pour que ce soit militarisé, pour que les militaires puissent, donc, évacuer le territoire et ensuite libérer ces terrains pour l'exploitation.
Et ça se fait également avec certaines populations autochtones.
Ça se fait avec les populations autochtones. Ouais. Et j'aimerais ajouter encore que c'est dans l'histoire des Amériques aussi le début, un principe de base des, donc de la colonisation. C'est que, par exemple, la notion des cannibales, les cannibales étaient là pour justifier la conquête armée. C'était donc, c'est pas qu'il y a eu les cannibales et les Espagnols ensuite poursuivent les cannibales, c'est que quand Colomb arrive, il décide qu'il y a des bons Indiens et des mauvais Indiens, puis qu'il est venu sauver les bons Indiens des mauvais Indiens, puis du coup, les cannibales se fixent comme, comme figure.
Todo esto parece muy triste.
Tout ça a l'air très triste.
Pero justamente la intención de nuestro museo, del Museo del Neoextractivismo, es poder contar esta historia, pero utilizando el humor y la ironía, no el cinismo.
Mais l'intention de ce musée du néo-extractivisme est de raconter tout ceci en utilisant l'humour et l'ironie et en évitant le cynisme.
Es una plataforma nómade, el museo se desplaza en distintos lugares. Puede estar en Colombia, puede estar en Ginebra.
Sí.
Le musée est une plateforme nomade et il se déplace un peu partout. Il peut être en Colombie comme à Genève.
Y bueno, en nuestras próximas investigaciones sobre este tráfico internacional de bienes, como podría ser el oro o el chocolate, el cacao,
Et la prochaine recherche sur ce trafic international de biens comme le chocolat ou l'or.
Es muy interesante para nosotros como directores del museo.
C'est très intéressant pour eux en tant que directeur de ce musée.
Conservateur.
Porque conservateur, exactement. Porque a partir de esta investigación sobre estos bienes de commodities, quizás podamos encontrar nuevos sponsors.
Et ils sont très contents, ils espèrent que à partir de ces nouvelles recherches sur des biens et commodities, ils pourront trouver des nouveaux sponsors.
BASF.
Et je pense que c'est peut-être aussi un appel au public qui entend voilà. En ce moment l'émission, bien sûr, parmi eux, certainement, n'est-ce pas, mais des représentants des grandes entreprises multinationales à la recherche des terroristes.
Ici, à l'université, à Unimail, quelque part, on formate, peut-être, on prépare déjà certains esprits au fonctionnement et à la promotion de ces grandes entreprises, qui sait. Alors, votre présence à Genève, elle est, parce qu'on va doucement s'arrêter là aussi, parce que
oui,
Valéria, ouais, puis je pense que tu dois être épuisée, parce que la traduction simultanée, je sais que c'est très très dur. Donc on va doucement s'arrêter là. Quel est le programme à Utopiana ici à Genève? Est-ce que les personnes vont pouvoir vous rencontrer, venir voir un peu, en tout cas l'ébauche de ce musée ou une partie de ce musée?
Quel est le programme ahora en Utopiana?
Bueno, nosotros cuando escuchamos de que había una convocatoria de una agencia de cooperación cultural Pro Helvetia para intercambio de artistas de Latinoamérica con iniciativas de Suiza, nos pareció una buena oportunidad.
Ils ont saisi l'occasion d'un appel à candidature de Pro Helvetia pour des échanges entre artistes suisses et argentins.
Nosotros comentamos un poco en una aplicación sobre algunas cosas del Museo del Extractivismo, no todo.
Donc ils ont présenté certains aspects de ce musée de l'extractivisme. Ils ont été une présentation partielle parce que c'est un projet très ambitieux.
Notre intention en este primer viaje era hacer una investigación, una especie de etnografía reversa.
Donc pour ce premier voyage, leur intention était de faire une espèce de ethnographie à l'envers, inversée.
Hemos visto durante los últimos años personas que vienen de Suiza quizás a investigar el modus vivendi en Sudamérica.
Donc ils ont vu il y a souvent des chercheurs suisses qui vont peut-être investiguer, faire des recherches sur la manière de vivre et les mœurs des Sud-Américains.
Para escribir tesis doctorales, para hacer exposiciones.
Ils écrivent des thèses doctorales, pour ensuite faire, ou bien ils ramènent des objets pour faire des expositions.
Y pensamos por qué no hacer lo mismo, pero al revés.
Et ils vont faire la même chose, mais à l'envers.
Conocer un poco de la cultura de ustedes.
Donc ils vont connaître un peu, rencontrer un peu cette culture.
Cómo viven, cómo se alimentan.
Comment est-ce qu'on vit, comment on se nourrit.
Qué aire respiran, qué agua beben.
Quel air on respire, quelle eau on boit.
Y a partir de eso poder generar un diálogo
sí.
Con personas que tengan intereses similares a nuestra investigación sobre la extracción.
Y a partir de esta información, establecer des liens avec des personnes qui auraient des intérêts similaires.
Donc en quelque sorte, ils viennent extraire la substantifique moelle des locaux, on peut dire, d'une certaine manière.
Ça m'a l'air tout à fait ça.
Ce qui serait intéressant, quoi qu'il en soit, je ne sais pas combien de temps vous restez à Genève, mais ce serait de se revoir au moment avant que vous quittiez, mais après que vous ayez pu vous.
Il part demain.
Ah, d'accord, il n'y a pas un temps comme
c'est
ça.
C'est okay. Non, si.
Ah, d'accord.
Ouais, mais ils vont revenir.
D'accord. Parce que ce serait intéressant de voir le cheminement que vous allez faire en puisant ces ressources d'ici, locales. Et de voir comment vous allez les métaboliser.
Les gustaría saber cómo metabolizan todos estos recursos naturales suizos. Et ainsi que, bah écoute, il faut leur demander de nous envoyer des exemples de leurs recherches. Así que les pedimos, por favor, que compartan los resultados de su investigación.
Sí, nosotros primero esto estamos con secreto comercial.
Pour le moment, il y a un secret commercial.
Pero cuando el producto esté listo, por supuesto.
On pourra, quand le produit sera prêt, on pourra bien sûr payer pour l'avoir.
Bah, bien sûr.
Y estamos también esperando quizás en 2020 poder hacer alguna presentación, estar un poco más de tiempo en Suiza y sobre todo poder entrar en un diálogo más fluido con los actores locales. Sí.
Et ils espèrent en 2020 pouvoir venir faire une présentation en Suisse et avoir un dialogue plus fluide avec
les locaux. Voilà, les indigènes, natifs. Les natifs. Ouais. Comment est-ce qu'on peut suivre tout de même le travail que produit le collectif ? Par Internet, j'imagine qu'il y a un site Internet sur lequel on peut aller regarder des choses.
Oui. Mmh. Tienen un site Internet ?
Si. No tenemos sitio todavía porque estamos creando un sitio para
el museo.
Para
el museo.
Poner D'accord. el archivo completo del colectivo, que son 20 años de práctica. Pero
il travaille sur un nouveau site pour mettre les archives complètes du collectif, mais
pero en Facebook se puede encontrar Grupo Etcétera,
Facebook museo, Grupo Etcétera,
Museo del Neoextractivismo.
Ainsi que le Museo del Neoextractivismo.
Et nous, on mettra les liens
aussi. Et aussi la Internationale Errorista.
Ah oui, bien sûr.
Et vous trouvez aussi l'Internationale Errorista, Erroriste sur Facebook.
Nous avons
trois pages.
Et Instagram, Grupo Etcétera. Et también tenemos un blog qui se llama Museo del Neoextractivismo.
Et il y a un blog qui s'appelle Museo del Neoextractivismo.
Una cosa final es que nosotros con el museo estamos buscando también agrandar nuestra colección. El museo tiene una colección de obras y objetos muy grandes, es como un museo etnográfico que tiene sus propias colecciones. Algunos objetos, algunos bienes naturales nos estamos llevando de Ginebra, pero estamos buscando artistas, cineastas, colectivos, radios, iniciativas que tengan que ver o que estén interesados en discutir o estén trabajando acerca del neoextractivismo o alguna de las áreas que el neoextractivismo toca.
Donc eux, ils ont une très grande collection d'objets, évidemment, d'objets de musées, une très grande collection, et ils cherchent maintenant des groupes. Des gens, d'autres artistes, chercheurs qui partagent certaines de leurs préoccupations.
Si?
Une adresse de contact? Page Facebook, j'imagine.
Facebook.
C'est le mieux. C'est la page Facebook.
Facebook
pour, d'accord, ça on mettra au libellé du podcast pour que les gens soient bien informés. Dernière question. Avez-vous rencontré des personnes, justement des conservateurs ou des responsables qui travaillent dans des musées ici à Genève ou en Suisse? Je pense au musée d'ethnographie, par exemple, qui est un musée plutôt intéressant avec justement une collection progressiste là et qui s'intéresse beaucoup, effectivement, à l'extractivisme, à ces notions-là.
Bueno, directores de museo no hemos conocido. Directores de instituciones sí, y están todos muy interesados. Ahora, sí visitamos el Museo Etnográfico en Zurich. Y acá, ayer fuimos a ver la inauguración de la exposición de cuentos que hay acá en el Museo Etnográfico y logramos ver un poco de la colección.
Donc, ils ont rencontré des directeurs d'institutions, mais pas des directeurs de musées. Et oui, ils ont visité le Musée d'Ethnographie à Zurich et à Genève, où ils ont été à l'inauguration de l'exposition sur les contes.
Les contes, la fabrication des contes.
Sí. Pero no hemos conocido todavía a los directores del museo. Ya tendremos la oportunidad.
Mais ils vont connaître les directeurs des musées dans une prochaine occasion.
D'accord. Loreto Garín, Federico, muchas gracias.
Gracias.
Y bienvenidas y bienvenidos aquí en el corazón del capitalismo. ¿Eh?
Sí.
Buen lucha, y etcétera.
Etcétera, etcétera.
Merci beaucoup, merci. On s'arrête là. Valeria, merci beaucoup à toi et à bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
Libre Radio, le côté obscur de la radio. Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.